Voilà, nous continuons notre série sur les questions difficiles et nous lisons dans Luc 9. À partir du verset 51. Luc 9, à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors la question qu'on a reçue est la suivante. Dans Luc 9, comme on vient de lire, 51-56, Jésus reprend sévèrement ses disciples car ils veulent maudire un village qui ne le reçoit pas. De quel esprit était donc animé Élisée quand il a maudit les enfants qui se moquaient de lui ou quand il a fait descendre le feu sur 51 hommes par deux fois alors qu'il venait le saisir? Jésus lui-même n'a-t-il plutôt pas maudit les villages de Chorazin, Bethsaïde et Capernaum à cause de leur incrédulité? Comment expliquer cette apparente incohérence? Voilà la question. Alors, avant d'attaquer la question, il faut qu'on définisse maudire. Maudire, c'est quoi? Donc, il y a plusieurs possibilités de définir maudire. Premièrement, maudire, vraiment à l'origine, c'est lié à Dieu, quoi. C'est vouer quelqu'un au malheur en appelant sur la personne la malédiction divine. Donc, au début, vraiment, c'est lié à ça. C'est qu'on appelle la malédiction divine sur quelqu'un. La malédiction divine étant quelque chose qui fait souffrir venant de Dieu et dû au fait qu'il y a eu non-respect de Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis, après maudire, ça peut être tout simplement aussi le fait de toujours vouer quelqu'un au malheur, mais en appelant sa propre malédiction, en fait, en le décidant soi-même, donc en souhaitant le malheur par soi-même, voilà, par soi-même. Et là, bon, ça peut être juste des paroles qu'on dit, qui ne nous engagent que nous, mais ça peut être aussi des combinaisons avec le diable qu'on peut faire pour vraiment que cette malédiction devienne réelle. Et maintenant, par expérience, on sait que la malédiction qui n'est pas divine, c'est une combinaison entre la haine, la colère de l'homme et les forces diaboliques. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre que Jésus dise aux gens de ne pas maudire. Et quand ils ont voulu maudire le village, il leur a dit, vous êtes animés de quel esprit? Puisque une malédiction qui ne vient pas de Dieu va venir du diable, en quelque sorte de la volonté de l'homme qui reçoit un certain soutien du diable. C'est pourquoi Jésus leur dit, de quel esprit êtes-vous animés? Donc, puisque la malédiction, quand on la voit sous l'angle divin, on peut l'appeler autrement, on peut l'appeler aussi jugement. Donc, c'est une sorte de jugement. Donc, Dieu juge quelqu'un. Et ce jugement s'accompagne d'une sanction. Voilà. C'est le côté malédiction divine. C'est lié au jugement. Alors que la malédiction que les humains, dont les humains font usage, c'est plus lié à la colère, à la haine ou à une déception, voilà, ou à une contrariété. Et Jésus nous interdit cette malédiction-là qui provient de la haine, de la colère, de la contrariété, de la déception et qui ne se sert pas de l'amour, qui ne fait plutôt pas cas de l'amour que Jésus est venu nous prêcher. Donc d'un côté, Jésus, il leur dit, vous êtes animés de mauvais esprits, en quelque sorte, parce que moi je ne suis pas venu pour maudire les gens, pour les détruire, je suis venu pour les sauver. Donc vous, vous voulez détruire un village parce qu'on ne nous a pas reçus. En réalité, ils étaient animés de quoi? De la colère. Donc c'était la colère, la déception, ils ont été contrariés, les choses ne se sont pas passées telles qu'ils voulaient, alors cet esprit-là de contrariété, de colère, de déception, les conduit à souhaiter le malheur, pour ce village-là. Et Jésus n'est pas d'accord avec cela, donc Jésus n'est pas d'accord avec le fait que nous souhaitions le malheur de quelqu'un puisque cette personne n'a pas fait les choses comme nous on l'aurait souhaité. Voilà. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur nous a enseigné le pardon. Il a dit que si quelqu'un nous fait du mal, nous devons apprendre à pardonner et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on aurait aimé être soi-même pardonné, excusé, alors pourquoi nous ne pardonnerons pas les autres ? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la malédiction divine qui est une forme de jugement. Donc, c'est Dieu qui juge. Et il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est un Dieu qui se venge. Dans Romains 12, c'est écrit qu'il est, Dieu dit que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, Dieu, en qualité de juge, il peut sanctionner les humains. Donc, on se souvient de ce qui s'est passé avec David quand il a pris la femme d'Uri, et qu'il a tué Uri. Donc, le jugement est tombé sur David que son fils mourait. Donc, et le fils de David est mort parce que Dieu a maudit. En quelque sorte, il y a eu la malédiction de Dieu qui s'est abattue sur cet enfant-là. Donc, c'est quand ça vient de Dieu, on peut donner un autre synonyme à la malédiction, c'est le jugement. Donc, le jugement de Dieu tombe. Et comment dire, Élisée, nous allons lire l'histoire d'Élisée, de Roi 2. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont dit que Élisée a été en manqué de patience. En manqué de maîtrise de soi. Moi, j'ai toujours donné un bon conseil aux chrétiens, faites attention au nom des personnages qui sont dans la Bible. Donc quand Dieu a laissé quelqu'un dans la Bible, son prénom, son nom, il ne faut pas se croire plus malin que ces gens-là ou plus proche de Dieu que ces gens-là. Donc, et même quand on lit la Bible, il y a toujours eu des gens qui se sont crus plus intéressants, plus proches de Dieu que ceux que Dieu utilisait officiellement. Donc on a vu comment Moïse, il y a son propre frère, sa propre sœur, ont voulu en quelque sorte contester son autorité et on a vu la réponse de Dieu. Donc c'est quelque chose qui a toujours eu lieu où il y a des gens, nous quand on était jeunes, enfin quand on était je ne sais pas comment ça s'appelle ici, après l'école primaire, 2 ans après l'école primaire, eh bien, on était en cinquième, c'est ça, hein? Voilà, donc en cinquième, c'est ça, 2 ans après l'école primaire. Donc en cinquième d'ici, ben on avait fait un texte, on avait lu un texte intitulé « Plus malin que Kindolo ». Et ce texte parlait d'un homme qui s'appelait Kindolo, qui était très très sage, mais il était devenu vieux. C'est comme aujourd'hui on parle de Pelé. On parle de Pelé. Et puis, il y a un jeune homme qui s'appelait maintenant Kandolo, qui, lui, il était encore jeune, fort, et il était aussi très sage. Et vous savez, il y a des tours de sagesse. Je te pose une question, je te piège, tu réponds. Et ce jeune homme-là, Kandolo, il arrivait à battre tout le monde. Mais ça le dérangeait d'entendre parler tout le temps de Kandolo, qui était déjà devenu vieux. Mais pourquoi, malgré tout ce que moi je fais, on continue à parler toujours de Kandolo? Mais il était fort comment? Moi, je pense que ma force le dépasse de loin. Parce que personne ne me résiste. Tous les exploits que je commets, comme aujourd'hui certains jeunes, en regardant un joueur de football, ils vont dire, mais oui, mais on ne voit pas qui peut dépasser cet homme-là. Mais eux, ils n'ont pas connu Pelé, ils n'ont pas connu les anciens. Donc ils se disent, mais on ne voit pas qui peut dépasser celui-ci. Quand je vois des journalistes jeunes parler des joueurs d'aujourd'hui, je dis, je comprends parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas vu les autres là quand ils jouaient. Voilà. Et donc le monsieur s'est dit, mais non, moi je suis trop fort. Comment on continue, malgré mes exploits, on continue toujours à parler de Kandolo, qu'il était. Moi, je vais le chercher pour le vaincre en duel de sagesse. Donc, il est parti chercher dans les villages. Il est arrivé dans un village et on lui a dit que c'est dans ce village-là que se trouve Kandolo. Il arrive au village. Il trouve un vieillard à la porte du village en train de bricoler, faire des choses. Il arrive près du vieillard, il dit, mais je m'appelle Kandolo. Voilà. Donc je suis en train de chercher un certain Kandolo. Voilà, je vais me mesurer à lui parce qu'on parle trop de lui. Moi, je vais le prouver que je suis plus fort. Eh bien, le vieillard lui dit, mais tu sais que Kandolo est très, très malin. Il a dit, mais je le sais, mais moi, je suis plus fort. Il dit, d'accord, mais je vais te donner un secret. Pour l'avoir, il faut que tu enlèves tes vêtements, tu restes en caleçon et tu vois la case là-bas. Quand tu vas arriver en caleçon, lui, il ne pourra pas te voir, il ne pourra pas bien te cerner, tu pourras la voir. Quoi. Le monsieur, il enlève ses vêtements, il reste en caleçon, il arrive près de la case qu'on lui a montrée. Il dit, mais je cherche Kandolo. On dit, mais ah bon? Mais tu ne l'as pas vu en entrant dans le village? Il dit, mais c'est qui? Mais c'est le vieil homme qui est assis là-bas. Donc le vieil homme qui lui avait demandé d'enlever les vêtements, c'était Kandolo. Alors, l'histoire s'est répandue, on s'est moqué abondamment de ce jeune homme. C'est pourquoi le thème, c'était plus malin que Kandolo. Bien-aimé, dans la vie, il faut être très simple. Quand tu entends parler de quelqu'un, ne cherche pas, parce que toi aussi tu fais des exploits, tu dis, mais comment on parle encore de l'autre? Mais tu ne sais pas. Sois calme. Si on parle de quelqu'un, bien-aimé, dans la vie, sois prudent. Sache que ce n'est pas pour rien que les gens vont parler. Si les gens continuent à parler de quelqu'un, c'est qu'il a fait des choses. Même quand toi tu fais, sois humble pour bien comprendre les choses. Donc beaucoup de gens lisent, ils condamnent Moïse pour ceci, ils condamnent Élisée pour cela, ils condamnent Élie pour... Donc comme un serviteur de Dieu qui a dit qu'Élisée a manqué de maîtrise de soi, Élisée c'est l'exemple d'un serviteur de Dieu qui n'a pas su se maîtriser. Non, bien aimé, il faut faire attention, il faut dire, bon, je ne comprends. Vaut mieux dire je ne comprends pas que de les taxer de manque de maîtrise de soi ou bien de les injurier d'une manière ou d'une autre. Et là, nous lisons dans 2 Rois 2, il est écrit ceci, 2 Rois 2, au verset 23. Il monta de là à Bethel, il s'agit d'Élisée, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Bien-aimé, je pense qu'on a fait un travail à un moment donné sur l'étude biblique, comment on lit la Bible. Donc, il faut lire tous les mots. Il ne faut pas lire comme un roman rapidement. Hein, quand on a un texte, je ne dis pas tout. Parfois, on peut être amené à lire la Bible 10 pages comme un roman. Mais si on veut étudier un texte, un texte nous fait souci, nous fait un problème, il faut qu'on lise tous les mots. Parce que des choses peuvent nous échapper. Quand on lit comme un roman, on peut nous-mêmes se faire une idée de la chose et faire des théories. Là, quand nous lisons, qu'est-ce qui est écrit ? Il se retourna pour les regarder et il les maudit. Point. Non, il n'y a pas point. Il les maudit au nom de l'Éternel. Donc c'est clair, ce n'est pas quelque chose lié à Élisée, mais il les maudit au nom de l'Éternel. Donc ce n'est pas la colère d'Élisée, ce n'est pas le choix d'Élisée, c'est au nom de l'Éternel. Élisée est un prophète, un serviteur de Dieu, et il parle au nom de Dieu. Et si on n'avait pas précisé au nom de l'Éternel, on aurait dit, bon, là on ne sait pas. Il a dit, il est maudit, c'est tout. Là, c'est écrit, il les maudit au nom de l'Éternel. Voilà. Et pour confirmer les choses, un ours vient, il déchire les 42 jeunes. Bien-aimés, soyons pratiques. Est-ce qu'on pense qu'un ours peut tuer 42 personnes directement comme ça? Je crois que quand il va prendre un ou deux, 46, 40, les 40 ont le temps de fuir, hein. Je ne pense pas que les ours soient champions de 100 mètres. Donc je crois que pendant qu'ils s'occupent de un ou deux, 40 ont le temps de fuir. Mais là, les 42 sont pris. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. L'ours a vraiment été utilisé par Dieu. Donc je fais une première rectification. Ce n'est pas en son propre nom qu'Élisée les maudit. Ce n'est pas par colère, mais c'est vraiment au nom de l'Éternel. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais quand même, c'est exagéré. Juste parce qu'on a injurié Élisée. Pourtant, à notre époque, Jésus dirait qu'Élisée pardonne. Mais on ne nous dit pas qu'Élisée n'a pas pardonné. On ne nous dit pas qu'Élisée est en colère. On nous dit tout simplement qu'il les a maudits au nom de l'Éternel. Puisqu'on veut faire comme si le Nouveau Testament est différent de l'Ancien. Non, il n'y a pas de différence. Il y a le Nouveau Testament nous apporte, comme Jean le dit dans Jean 1,17, la grâce et la vérité. Mais cependant, c'est le même Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira mentent, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Mais aujourd'hui, vous savez le nombre de chrétiens qui mentent. Il y en a qui peuvent mentir 115 fois par jour. Alors, mais ils sont pardonnés. Donc, mais pourquoi Ananias et Saphira sont seulement morts? Donc, il faut se poser des questions. Il ne faut pas être rapide. Donc, de la même manière, Élisée, on peut dire, mais juste parce qu'ils lui ont dit chauve, on les tue par un ours. Il faut se poser des questions. Il faut savoir une chose. Quand Dieu commence une œuvre, Dieu ne supporte pas un blocage quelconque tant que l'œuvre n'a pas pris maturité. Dieu va supporter les blocages quand l'œuvre a pris maturité. Mais tant que ça n'a pas pris maturité, il combat directement. Il élimine lui-même toute forme d'opposition. Parce qu'il tient à ce que l'œuvre prenne maturité et qu'elle ait en elle-même des processus de défense. Élisée venait juste d'être, en quelque sorte, reconnu remplaçant d'Élie. C'était juste au moment où Élie part, Élisée est reconnu en ce moment-là. Donc, Élisée n'était pas encore accepté officiellement par les autres. Il fallait que Élisée se fasse accepter par le peuple comme étant un vrai, le vrai successeur d'Élie. Et comment dire? Donc quand vous lisez le contexte, c'est ça, puisqu'on avait dit que quand on étudie la Bible, il faut connaître le contexte. Le contexte, c'est qu'Élie vient d'être enlevé et Élisée reçoit la double portion et il n'est pas encore très bien vu comme successeur d'Élie, et ses enfants-là se permettent déjà de l'injurier. Et c'est là que je crois, à mon sens, que Dieu a voulu mettre un stop sur le fait que Élisée soit considéré juste comme un homme simple comme ça. Il a voulu avertir les gens que c'était vraiment son serviteur. Voilà, c'était vraiment son serviteur. C'est pourquoi cet affront qui paraît enfantin peut revêtir un côté satanique puissant dans le sens de saper l'autorité d'Élisée. Et nous, peut-être, on se dit, mais c'est des enfants. Mais oui, mais ces enfants-là peuvent être utilisés aussi par le diable. Voilà la réalité. Et personnellement, je crois que là, Élisée vient de prononcer un jugement divin sur ces enfants-là afin de montrer que ce qu'ils venaient de faire, ils venaient de s'opposer à l'autorité divine. Élisée n'était plus Élisée simple, c'était l'Élisée représentant de Dieu. Donc en attaquant le représentant de Dieu, ils ont attaqué Dieu lui-même parce qu'ils ont voulu saper l'autorité divine. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira ont menti, Pierre a bien dit, hein, en mentant, ils ont menti à qui ? Au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit venait d'être révélé aux chrétiens, aux disciples. Donc, Dieu a voulu que clairement les chrétiens sachent qu'au milieu d'eux, il y a le Saint-Esprit qui voit tout, qui agit et qui conduit l'œuvre de Dieu. Il fallait que ça soit clair. Et il a décrété la mort d'Ananias et Saphira à titre d'exemple pour les autres et surtout pour ne pas bloquer l'œuvre du Saint-Esprit qui commençait à agir au milieu des chrétiens. Et là, pour ne pas bloquer l'autorité nouvelle de Dieu en Élisée, Dieu a sanctionné ses enfants de cette manière claire et nette. Bon, le cas des soldats tués, les 50 hommes, c'était des gens qui venaient arrêter quand même Élisée. Donc là, c'est un peu plus simple que qui leur a envoyé le feu. D'ailleurs, je crois que les disciples ont voulu se servir de l'exemple du feu qu'Élisée a envoyé à ces soldats-là pour aussi envoyer le feu dans le village qui ne les a pas reçus. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'Élisée était animé de l'Esprit de Dieu et il était en train de prononcer des jugements. Maintenant, Jésus nous interdit de maudire, comme on l'a dit dans la deuxième définition de maudire. Donc, souhaiter le malheur de quelqu'un parce que tu es en colère, parce qu'il t'a déçu, parce qu'il n'a pas fait les choses comme tu as voulu, parce que, tu n'aimes pas la personne, Jésus est contre cela. Mais, même Jésus lui-même, comme justement la question le dit, il a prononcé des jugements sur les villes de Chorazin, Bethsaïda et de Capernaum. Ça, on peut appeler ça malédiction, jugement, c'est des jugements de Dieu que le serviteur de Dieu prononce. Ce n'est pas lui qui le souhaite parce qu'il est dépassé, fatigué ou en colère, mais il prononce des jugements divins. Vous n'avez pas vu beaucoup de gens, ils ont maudit, ça n'a pas marché parce que c'était pas de Dieu. Mais quand c'est des jugements divins, on n'est qu'une bouche pour donner ces jugements-là. C'est pourquoi le serviteur aussi qui va refuser de prononcer des jugements divins, il n'est pas selon la volonté de Dieu. Donc il faut être prêt à prononcer des bénédictions comme des jugements. Oui.
Oui. Oui, pasteur. Excuse-moi. Bon, par rapport à cette verset-là, des Rois 2, 23, 24, bon, c'est vrai ce que tu as dit par rapport au serviteur.
Mais on attend qu'ils arrangent.
C'est faux. C'est bon?
Non.
Oui, par rapport à d'autres serviteurs qui maudit d'autres personnes ou serviteurs, tout ça. Et ils prennent aussi ce passage-là. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on peut répondre à ce... Je sais que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à cette question?
Non, quand on voit des gens maudire en prenant exemple sur ce passage, nous devons faire comme Jésus-Christ. observez quel esprit les anime. Voilà, un exemple. Dans une même famille ou dans une même église, bon, admettons que quelqu'un lui ait volé son sac et il maudit la personne qui a volé le sac. Donc là, on comprend que c'est parce qu'on lui a volé le sac, animé de la colère, il prononce une malédiction sur la personne. Et ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit, on a encore le verset qui dit, si on te prend quelque chose, tu donnes encore l'autre. Voilà, tu donnes, on te prend un manteau, tu donnes encore l'autre. Voilà. Donc, à chaque fois, nous devons examiner quel esprit anime. Comme Jésus a dit, mais de quel esprit vous êtes animé? Donc, c'est la colère qui vous anime. On vous a déçu. Non, moi, je ne suis pas venu détruire, je suis venu sauver. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà.
Donc, par rapport à cette verset-là, on peut dire que c'est la loi, c'est l'Ancien Testament. Il faut, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, comme Jésus est venu, il ne faut pas...
C'est ça? Ah non, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Depuis là-bas, la malédiction devait être divine. Donc, comme on l'a dit, même la définition que je vous ai donnée, elle vient du dictionnaire. Oui. Vouer quelqu'un au malheur en l'appelant sur la personne, la malédiction divine. Donc, à l'origine, donc, même les païens reconnaissent que Dieu seul peut maudire parce que lui seul peut amener ses jugements à exécution. Maintenant, les humains ont pris ça pour faire en leur manière et c'est là que le diable entre pour donner de la puissance à cela. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas ce n'est pas maudire, Dieu n'a pas dit aux gens de maudire les autres. Voilà. Par contre, dans l'Ancien Testament, comme on l'a souvent dit, là-bas, Dieu agissait d'une manière physique aussi avec le peuple d'Israël. Donc, on voit plus ces actes-là de malédiction physique, plus que dans le Nouveau Testament, mais ça existe dans le Nouveau Testament aussi, puisqu'on parle de cas d'Ananias et Saphira. Pierre a prononcé un jugement sur eux. Il n'a pas fait ça par colère. Il a dit, mais je vous explique ce qui va vous arriver, vous allez mourir. Mais ça ne vient pas de Pierre. Il leur annonce ce qui va leur arriver. Et on voit aussi, Paul a rendu Elimas aveugle, hein, donc quelqu'un qui voulait l'empêcher de convertir. Il a dit, tu vas devenir aveugle. Mais ce n'est pas forcément que Paul qui décide par colère de rendre l'autre aveugle. C'est juste qu'il lui prononce un jugement lié à son comportement. Donc, ça, c'est
voilà. Donc par rapport à ça, on peut dire à la personne qui dit ça pour dire que, bon, on peut dire que Dieu soit béni si c'est de Dieu et que tu fais ces choses-là.
Non, il y a des cas simples, Sœur Charlotte, il y a des cas simples. On me vole un sac. Donc, je n'ai pas à maudire quelqu'un. On ne voit pas en quoi ça entre dans le conflit d'autorité avec Dieu. Donc, que ce soit Ananias et Saphira, que ce soit le monsieur là que Paul a rendu aveugle, c'est des gens qui s'opposaient à Dieu. Voilà. Donc la malédiction, elle est divine dans le sens que à chaque fois les gens s'opposent à Dieu, il y a la malédiction sur eux. Même quand Marie, la sœur de Moïse, a voulu contester Moïse, elle a contesté Dieu puisque Moïse n'est que le représentant de Dieu. Moïse en lui-même n'est rien du tout. Donc Moïse travaillait en tant qu'employé de Dieu. Donc en attaquant Moïse, il a attaqué Moïse en tant qu'employé de Dieu. Pas en tant que personne. Il n'a pas dit Moïse tu es court. Il n'a pas dit Moïse tu es grand. Non, il a dit pour qui il se prend, nous aussi on peut prophétiser. Il n'y a pas que Moïse qui peut prophétiser. Donc il l'a attaqué en tant qu'employé de Dieu. Donc il s'est opposé, elle s'est opposée à Dieu. Donc, quand on regarde les malédictions, en général, c'est lié au fait que quelqu'un affronte l'autorité divine. Mais quand on me vole un sac, donc je ne vois pas en quoi la personne a affronté l'autorité divine, l'ordre divin, je ne vois pas en quoi. Voilà, donc il y a certains actes des gens qui sont vraiment des actes de contester Dieu lui-même. Et là, il se peut que Dieu envoie des jugements sur ces personnes-là. Ou autrement, il y a aussi des actes du genre de péché exagéré. Voilà. Là, il peut y avoir des jugements comme le monsieur, le garçon qui avait pris la femme de son père dans le Nouveau Testament. Donc là, Paul a dit donc il faudrait qu'il soit livré à Satan. Voilà. Donc c'est des choses, des actes exagérés où il doit y avoir une sanction exemplaires. Voilà. Ça peut arriver comme ça, des actes exagérés. Mais dans tous les cas, ça doit venir de Dieu. Ça ne doit jamais venir de l'homme, puisque l'homme est fatigué, l'homme est en colère. Donc, c'est des choses qui doivent venir de Dieu lui-même. Donc, les gens... Donc, il y a plusieurs cas aujourd'hui. Nous-mêmes, on peut voir que ce n'est pas bien de maudire parce que la personne ne s'est pas opposée à l'autorité divine. Donc, on va voir clairement que c'est la chair, quoi. Et là, on peut dire non, ce que tu fais là n'est pas correct. Quand Élisée a maudit, c'était l'autorité divine qui était mise en cause, en question, remise en question. Et quand Pierre a dit à Ananias et Saphira, c'était lié au fait que ces gens-là, dans leur comportement, ils s'opposaient au Saint-Esprit. Donc c'est cela que nous devons vivre tous les jours. Le fait que ce soit Dieu lui-même qui prononce ses jugements, nous on doit être que des bouches. Mais aujourd'hui c'est devenu monnaie courante de voir des gens maudire à gauche, à droite. Alors le Seigneur nous a donné la recommandation claire et nette, ne maudissez pas, bénissez. Donc nous avons à bénir. Mais il peut arriver que Dieu se serve de nous pour prononcer un de ses jugements sous forme de malédiction. Voilà, ça peut arriver, mais nous devons comprendre que le plus important pour nous, ce que Dieu nous recommande, c'est de bénir, ce n'est pas de maudire. Donc ici, il n'y a pas d'incohérence, c'est juste que d'un côté, les disciples ont voulu maudire par colère, par dépit, alors que de l'autre côté, c'est des jugements de Dieu que des serviteurs de Dieu ont prononcés. Je ne dis pas que si un serviteur de Dieu prononce une malédiction ou un jugement, que c'est toujours vrai, pas du tout. Donc en général, un vrai serviteur, vous l'entendrez pratiquement pas prononcer une malédiction, sauf... s'il a vraiment reçu un mandat pour une mission et il y a quelqu'un qui veut s'opposer à cela, ça doit être Dieu lui-même qui doit parler, ça ne doit pas être l'homme qui doit parler parce qu'on l'a déçu, parce qu'on s'est moqué de lui. Non, il faut que ça vienne du Seigneur. Donc Élisée a maudit au nom de l'Éternel, ce n'était pas en son propre nom. Voilà. On se souvient de Jésus à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il n'a pas maudit les gens. Parce que ce que faisaient les gens, ces gens-là pensaient s'opposer à Dieu, mais ils aidaient même à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, il faut faire attention comme j'ai entendu déjà un pasteur dire qu'Élisée, c'était un problème de maîtrise de soi. Vraiment, c'est trop rapide. Il faut lire l'histoire d'Élisée. Vous savez, Élisée n'a pas pris les diamants. Ces pasteurs-là, si on leur donne des diamants, ils vont prendre très vite. Donc, Élisée, on lui a donné des bijoux, des diamants, de l'or. Alors qu'il venait de guérir quelqu'un, il n'a pas pris. Hein? Imaginez aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont dire, c'est mon temps. Je vais utiliser ça pour construire l'église. Mais lui n'a pas pris. Et puis, tu vas dire que cet homme-là manque de maîtrise de soi. Hein? Bien-aimé, réfléchissons. Donc, quand on veut... Il faut faire attention de juger les gens dont les noms sont dans la Bible. Il faut bien lire leur vie. Vous allez comprendre que beaucoup étaient vraiment spéciaux. Non pas que ce soit eux-mêmes qui étaient spéciaux, mais ils ont été obéissants à Dieu d'une manière spéciale. C'est pourquoi leur nom se trouve ici. Et dans Hébreux 11, on les cite comme des témoins, c'est-à-dire comme des poteaux électriques, des lampes de Dieu au fil des siècles, quoi. Donc, il faut faire attention à les juger très rapidement. Il faut bien lire le contexte, bien lire leur vie. Et on va comprendre que vraiment, c'était des avant-goûts de Jésus-Christ lui-même, quoi. Donc, souvent, ils ont raison. Souvent, ils ont raison dans tout ce qu'ils font. Mais peut-être, parfois, nous, on ne comprend pas encore. Alors, il vaut mieux s'humilier et demander la compréhension. Donc, il n'y a pas d'incohérence. C'est d'un côté les jugements. De l'autre côté, c'est les disciples qui voulaient faire les choses par colère d'une manière charnelle. Voilà. Une autre question qu'on nous a posée, donc je vais mélanger deux questions à la fois. Donc une qu'on vient de m'amener tout à l'heure venant des musulmans. Voilà. Et puis la question d'Emmanuel du mardi passé concernant le Fils de l'homme, pourquoi on appelait Jésus. Jésus lui-même s'appelait Fils de l'homme. Et la question qui vient par une de nos sœurs, qui a été posée par ses amis musulmans, c'est que comment, je vais résumer ça parce qu'il y a plusieurs questions qui s'enchaînent, ils ont écrit beaucoup de choses. Comment Dieu peut-il se faire tuer? Comment Dieu peut-il se retrouver dans le ventre d'une femme? Comment Dieu peut-il se retrouver au tombeau? Voilà, donc comment ils ne comprennent pas, si Jésus est Dieu, comment il peut se retrouver dans des positions d'infériorité de ce genre-là? Comment le couteau peut-il le transpercer, ainsi de suite, plutôt les clous? Et ils disent, mais quand Jésus mourait, Dieu, il était où? Donc l'univers a manqué de Dieu en ce moment-là, quoi. Voilà, donc il y a tout ce genre de questions, voilà, qui ont trait au côté faible de Jésus. Mais là, c'est simple. Premièrement, je peux dire aux chrétiens, comme c'est écrit, l'évangile ne peut pas être compris par ceux qui périssent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est écrit aussi que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Parce que l'évangile nous montre une faiblesse comme étant une force. Donc Jésus crucifié comme étant une force. Alors que dans la logique normale, la force ne se retrouve pas dans la faiblesse. Maintenant, ils ont posé de bonnes questions. C'est lié à leur façon de concevoir Dieu. Dieu est tout puissant, il est au ciel. Comment peut-il se retrouver dans le ventre d'une femme? C'est que on doit leur donner comme information, c'est que Dieu est venu en homme. Dieu, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, avait un fils. Et ce fils, il s'appelle, quand il est venu en homme, il s'est appelé Jésus, donc Dieu qui sauve. Et ce fils est venu, ce fils qui est Dieu lui-même, eh bien, il est venu, puisque le mardi passé, on a déjà parlé du fait que, ou bien il y a deux mardis ou trois mardis, du fait que, on a parlé du Fils de Dieu, du côté Fils de Dieu. Donc, il existait déjà avant, et il est venu en homme pour sauver l'humanité. Et que ce soit étonnant que Dieu soit dans le ventre d'une femme, ce n'est pas si étonnant que ça lorsque nous observons la nature. Vous vous imaginez qu'un arbre comme le baobab ou bien le chêne, ce sont des arbres qui viennent d'un grain. Donc le grain, il est petit et quand il pousse, il amène à l'existence un arbre qui est plus grand que certains bâtiments. Très solide que plusieurs humains. Un arbre qui n'a rien à voir en grandeur avec le grain qui a été semé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire très simplement? C'est que cet arbre-là, il était où? Il était dans le grain. Parce que c'est du grain que l'arbre est venu. Donc on peut dire que cet arbre-là était dans le grain. Donc que le Fils de Dieu vienne sous forme de grains dans le ventre d'une femme, c'est possible puisque un arbre comme un chêne, comme un baobab, était d'abord dans un grain avant de devenir baobab. Donc c'est des exemples que nous avons dans la nature où des petites choses peuvent en réalité contenir de grandes choses et briller par la suite, comme l'exemple de l'œuf qui en réalité contient, que ce soit un crocodile, une tortue ou bien un coq, mais l'œuf il est petit, mais en lui se trouve tout ce qui est nécessaire pour produire le coq, le crocodile, la tortue. Donc c'est pas si étonnant que ça. Ce qui gêne plutôt, c'est la logique intelligente humaine qui veut que ce qui est tout puissant reste dans une apparence de grandeur et de toute puissance, alors que le monde nous montre bien que tout ça peut être réduit. Qui a déjà vu à la télé l'explosion d'une bombe atomique ou bien d'une bombe à hydrogène? Vous allez voir que une bombe atomique qui a presque ma taille peut détruire toute la ville de Rouen. Mais pourtant, rien que ma taille, donc ça détruit toute la ville de Rouen. Donc ça veut dire que toute cette force-là de destruction se retrouve dans cette petite bombe. Donc ce n'est pas quelque chose de compliqué, puisque nous retrouvons des exemples de ce genre dans la vie de tous les jours, où de petites choses peuvent contenir de plus grandes choses, donc qui viennent se contracter en ces petites choses. Ce n'est pas compliqué. Et si on appelle aussi Dieu Tout-Puissant, Dieu, en tant que étant Tout-Puissant, il peut venir habiter dans le ventre d'une femme. Donc c'est la première réponse. Deuxième réponse, on doit faire comprendre à nos amis musulmans que le vrai problème, c'est le problème du péché. Donc comment il fallait résoudre le problème du péché? Il fallait qu'il y ait un homme sans péché qui vienne prendre la place des autres. C'est aussi simple que ça. Donc l'homme était condamné par son péché et le seul homme juste que Dieu a trouvé, il n'en a pas trouvé plutôt. Et comme il n'en a pas trouvé, son fils a demandé à venir en homme. On trouve ça dans le psaume 40. Au verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, le Seigneur était fatigué des sacrifices d'autrefois, puisque ces sacrifices-là ne rendaient pas l'homme pur, finalement. Alors, Jésus a dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, le Seigneur Jésus, qui existait en Dieu, qui était Dieu, il a accepté de s'humilier, prendre la forme d'homme. Et le résumé de tout ça est expliqué dans Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2, Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Je recommence. Ayez en vous les sentiments qui existent, qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc c'est clair qu'il est Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Voilà la doctrine chrétienne. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié, verset 8, lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, je crois que pour aborder ces questions avec les musulmans, il faut commencer par aborder la question du péché. Parce que si on discute tout simplement Dieu, Dieu, ils ne vont pas comprendre pourquoi Dieu va venir en homme. Ça n'a pas de sens. Donc, s'il n'y a que Dieu, 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 on ne comprend pas pourquoi il vient en homme. Donc, pour bien que le musulman comprenne pourquoi Dieu vient en homme, il faut lui parler du problème du péché. Donc, lui expliquer que l'homme en lui, il y a le péché. Et le seul moyen d'être quitte vis-à-vis de Dieu par rapport au péché, c'est que la condamnation soit subie Or, Dieu étant amour, ne veut pas qu'on subisse la condamnation. Alors, il a préféré que son Fils vienne en homme pour subir la condamnation à notre place. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est venu en homme qu'il a été, que les gens, ont pris le dessus sur lui. Non, il s'est laissé faire. C'est là qu'on peut donner des exemples à ce musulman, lui montrer comment Jésus a arrêté la tempête. Jésus a marché sur les eaux, il a multiplié les pains, il a ressuscité les morts. Et quand on est venu l'arrêter, il a dit, c'est moi. Les gens qui sont venus l'arrêter, ils sont tombés. Et dans Jean 10, 18, il dit, personne ne m'enlève la vie. Moi-même, je la donne et je la reprends. Donc, lui expliquer que c'est vraiment d'une manière volontaire que Jésus s'est laissé faire parce que c'était le chemin qui apportait le salut à toute l'humanité. Ce n'est pas que les gens ont pris le dessus sur lui, mais il s'est laissé faire. C'est deux choses différentes. Donc, il s'est laissé faire parce qu'il fallait qu'il soit crucifié et que son sang coule comme le sang d'un animal, d'un agneau, afin que le pardon de l'humanité soit obtenu. Et je crois que là, la compréhension peut commencer à venir pour le musulman. Mais si on discute seulement votre Dieu, notre Dieu, ça reste comme ça, ça reste sec. C'est normal qu'il ne comprenne pas, mais pourquoi il va mourir? Faut lui expliquer pourquoi il vient mourir. Le problème, c'est le problème du péché. Moi, je me souviens, j'avais fait le voyage Maroc-France, la première fois que j'étais venu en France, dans un car, et j'étais avec un musulman. Parce qu'il y a des musulmans qu'on appelle les soufis. Donc, c'est des musulmans qui, lorsque vous parlez avec eux, ils semblent nous ressembler. Mais ils ne nous ressemblent pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais c'est des musulmans qui ne vont jamais vous parler de violence. Ils vont vous parler de prière, ils vont vous parler de méditation. Donc, c'est un courant musulman qu'on appelle courant mystique, qui fait vraiment référence à Dieu, contrairement à l'islam normal, où les hommes sont des collaborateurs de Dieu. Sans les hommes, Dieu ne peut rien faire. Mais eux, ces musulmans-là, ils font vraiment référence à Dieu comme nous on le fait d'une certaine manière. Et ils prient, ils méditent, mais ça reste démoniaque quand même. Voilà. Mais cependant, ces gens-là, ils ne s'énervent pas vraiment. Voilà. Donc, parce que leur théorie est beaucoup plus comme les bouddhistes. Alors, j'ai discuté avec ce monsieur, je lui ai dit, mais comment vous êtes sauvé? Il me dit, mais je fais ceci, je fais cela. Moi, j'ai dit non. Puisque, en faisant vos actes là dont vous parlez, vous n'avez aucune garantie que Dieu vous pardonne. Qu'est-ce qui vous garantit que Dieu vous pardonne? Est-ce que vous pouvez me donner un texte du Coran qui vous montre que le jour où vous mourrez, vous allez au ciel? On a fait presque 30 minutes avec la question. Et il a fini par s'énerver parce qu'il n'y avait aucun texte du Coran qui lui garantissait le salut. Et il le sait bien, puisque c'est des gens qui lisent quand même le Coran, ces soufis-là. Aucun texte qui garantit le ciel. Donc il a fini par s'énerver. Voilà pourquoi nous, Jésus-Christ, nous garantit le ciel. Il nous dit, si nous croyons en lui, le ciel nous est donné. C'est clair. Donc Jean 3, 16 nous le dit clairement. Et c'est pourquoi nous croyons en Jésus. Nous avons la certitude du ciel. Vous n'avez aucun passage du Coran qui vous garantisse le ciel. Et pourquoi nous avons le ciel garanti? C'est simple. C'est comme si j'ai volé et on devait m'amener en prison. Mon cousin part en prison à ma place puisqu'il me ressemble. C'est clair que moi, je vais rester à l'extérieur. Donc, c'est aussi simple que ça. Jésus-Christ a pris la condamnation qui devait venir sur nous. Et c'est comme ça que nous pouvons être sûrs vraiment que nous sommes pardonnés parce que quelqu'un d'autre a pris ça à notre place. Donc, on est très sûr. Et maintenant, on ne s'arrête pas là. Mais comment on est sûr de tout ça vraiment d'une manière physique? Mais c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, il a prouvé que son système marchait. Donc, il est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Donc, il garantit à tous ceux qui croient en lui qu'ils feront le même passage que lui, de la mort à la résurrection. Et on peut croire parce que lui-même est ressuscité. Voilà. Oui, sœur Charlotte. Donc on peut croire parce que, à cause de cela. Et donc il faut expliquer tout cela parce que discuter Dieu, moi je comprends, si j'étais un musulman, je comprends que je n'accepterais pas qu'on me dise que Dieu est venu sous forme de bébé. Dans l'islam, on me dit que Dieu est tout puissant, il est loin de nous, il est le souverain. Voilà, donc il faut qu'il y ait une raison, il faut expliquer tout cet ensemble-là. Et nous revenons souvent à l'histoire du péché pour bien faire comprendre ces choses-là. Oui.
Je voudrais revenir par rapport aux musulmans Sophie, là. Ils prient ensemble ou ils se sont séparés dans les mosquées?
Ah non, ils ont leur réunion. Donc, pardon. Comme vous voyez, nous on fait des séminaires, par exemple, on loue une salle, on fait un séminaire. Ces soufis-là font aussi des réunions de ce genre-là. Mais ça reste démoniaque quand même, donc il ne faut pas aller voir pour...
Non, c'est juste pour savoir s'ils se réunissent ensemble dans leur mosquée ou...
Il y en a qui peuvent aller de temps à autre dans les mosquées, mais ils ont leur réunion spéciale à eux.
Ah, c'est pas...
C'est vraiment un islam particulier, voilà. Ah, ils ont aussi des gens, des trucs du genre parler en langue. Vous voyez comment le diable est un imitateur. Les soufis ont les trucs là. Vous allez voir leur chef en train de parler comme s'il parlait en langue, mais c'est démoniaque. Voilà. Donc je crois que nous revenons maintenant, c'est pourquoi au terme fils de l'homme, Jésus s'appelle fils de l'homme, justement pour montrer ce côté humain où il vient en représentant des humains. Il est le représentant, fils de l'homme dans le sens représentant de la race humaine. C'est comme si on était entre Dieu, les anges et les hommes. Et le fils de l'homme, c'est dans ce milieu-là, c'est Jésus. C'est le représentant des humains. Donc il vient prendre la conduite des humains. C'est lui le fils de l'homme. Donc l'héritier des humains, c'est lui, Jésus. Jésus insistait là-dessus parce que c'est Jésus en tant qu'homme qui seul pouvait mourir pour notre salut. En quelque sorte, c'est Jésus en tant qu'homme qui permet notre salut. Donc il nous sauve. C'est comme si... voilà, l'histoire de David et Goliath est bonne pour expliquer ça. David a représenté Israël dans le combat face à Goliath. Donc on a pris un, et Jésus est celui qui est sorti du milieu de nous, l'humain qui s'est battu pour le salut de toute l'humanité. C'est ça, fils de l'homme, représentant de la race humaine, celui qui est de l'homme, sachant que Jésus est aussi Dieu en même temps. Oui.
Quand il était l'homme, il n'avait aucune divinité en lui?
Non, il y avait la plénitude de la divinité, mais il ne l'a pas utilisée.
Donc, il pouvait l'utiliser n'importe quand qui aurait voulu, mais il ne l'a pas fait.
Il n'a pas utilisé, voilà.
Puis, il a fait tous ces miracles-là et tout ça.
Étant rempli du Saint-Esprit.
Oui. Et puis, il dit que nous, on en ferait plus que lui.
Oui, oui.
Sauf qu'on n'a pas entendu parler de gens qui en ont fait autant que lui, là. Marcher sur l'eau, multiplier du pain, ressusciter. Faire tout ça avec la même personne, on n'en a pas...
Oui. Mais quand il a dit « nous », c'est
individuellement, différentes
c'est pas
parties.
Forcément individuellement. Il a dit « ceux qui croiront en lui, ils feront des plus grandes choses ». Donc ça peut être nous individuellement, ensemble réunis avec nos expériences individuelles, nous vivons des choses plus grandes que ce que Jésus lui-même a vécu étant physiquement sur terre.
Et puis quand il dit ça, est-ce qu'il dit ça parce que... On croit, tout simplement. Donc, on pourra? Ou est-ce qu'il faut être archi-sanctifié?
Non, il parle de croire. Hein? On va lire ce verset-là, Jean 14, 12. Moi, je crois qu'un de nos grands problèmes, c'est que nous ne constatons pas les miracles. Au fait, c'est ça le... Le premier, Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, celui qui croit, oui, c'est celui qui croit, et il fera de plus grandes œuvres. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit faire tout ce que Jésus a fait. Faire de plus grandes œuvres, ça ne veut pas dire faire tout ce que Jésus a fait. Donc, mais faire des œuvres plus grandes. Oui, on a vu des gens qui ont ressuscité des morts. Il y a des gens qui sont arrivés à, à comment dire, prier pour les autres, les aveugles voir, et en plus grande quantité que Jésus. Oui.
Des fois, je m'arrête sur ça, tu sais, puis on a vu des gens faire des grandes choses. J'ai vu des gens sortir de chaises roulantes et tout ça. Est-ce qu'on est censé aspirer à ça ou?
Moi, je ne pense pas qu'on doit. On doit aspirer à travailler pour le Seigneur. Et en travaillant pour le Seigneur, c'est là qu'on va voir ces choses-là. C'est en travaillant pour le Seigneur. Moi, je crois qu'à notre époque, si nous ne vivons pas cela, parce que le diable a mis des infiltrés qui font des faux miracles. Et il peut se faire que dans une crainte de confusion, Dieu permet d'abord qu'il y ait une sorte de nettoyage du monde chrétien. Quand ce nettoyage va être fait, il peut agir avec le reste qui sera à lui de cette manière-là. C'est une question de temps.
Tu sais, des fois,
c'est ça ma conviction.
Des fois, tu sais, je m'arrête, je dis, est-ce que c'est plus important tu sais, ressusciter un mort ou d'être capable de pardonner quelqu'un? Ou est-ce qu'il faut faire des comparaisons comme ça, tu sais?
Non, moi je crois que ce que Jésus dit est vrai, c'est-à-dire qu'on fera de plus grandes choses. Mais c'est une question d'époque, de discerner l'époque que nous vivons. Personnellement, ça c'est mon avis personnel, je crois que nous vivons une époque de grande confusion. Parce que les gens, les infiltrés, les faux serviteurs, sont en train de répandre des fausses doctrines en utilisant les miracles. Je ne pense pas que dans ces conditions-là, Dieu veuille se rendre visible par les miracles, parce qu'il y a tellement l'autre côté qui fait la même chose dans le faux, et Dieu veut d'abord qu'on revienne à ce que tu viens de dire, à la foi toute simple, où j'aime le Seigneur, je veux le servir. Et si dans ce travail-là de mise à part, je crois qu'aujourd'hui on est dans un travail de mise à part, donc dans toutes ces églises qui sont voilà, j'avais peut-être discuté un peu de ce qui s'est passé dimanche. Il y a un pasteur qui a été proclamé roi aux États-Unis. Donc, Dieu veut que dans toutes ces églises-là où nous voyons ces bêtises, sortent 2, 3, 4, 5 personnes qui fassent une vraie église à part, et viendra un temps où cette église-là, dans la persévérance, dans l'amour de la parole, dans l'application de la parole, va vivre textuellement ce que Jésus dit, ces miracles-là, même plus que lui, quoi. Voilà.
Parce que c'est vrai que quand tu as déjà vu ces vagues de toutes ces choses-là, après ça, tu n'as plus envie de ça du tout.
Oui, parce qu'on a été, voilà, on a été déçus. Donc, on a vu des faux miracles qu'on croyait être vrais. Hein. Et surtout, ce qui nous embête aussi, c'est de voir que beaucoup de gens sont escroqués par ce système-là. Des miracles, des manifestations. Alors, moi, personnellement, je me dis, mais je vois mal. Moi, si j'étais Dieu, voyant que les gens sont escroqués dans ce système-là, au lieu de venir à la vraie foi, je vois mal que moi aussi, j'utilise mes serviteurs de la même manière, parce qu'il y aura confusion. Et les gens, ça ne fera qu'augmenter les enchères. Donc, moi, je dis, si j'étais Dieu, voilà, maintenant, après, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais personnellement, ma logique est la suivante. Nous vivons un temps de nettoyage. Le temps de nettoyage va être suivi d'un temps de persévérance dans la pureté. Et après ce temps de persévérance dans la pureté, Dieu va faire des grandes choses. Voilà. Visible. Oui, il y a trésor derrière. Voilà, donc c'est ça. Donc Jésus est fils de l'homme, représentant de l'homme. Il veut vraiment manifester qu'il est homme à 100%, qu'il n'y ait pas confusion. Vous savez, il y a une doctrine chrétienne qui a commencé au deuxième siècle, une fausse doctrine plutôt chrétienne qui disait que Jésus n'était que esprit, quoi. Donc si on considère que Jésus était seulement Dieu esprit, donc on va toujours s'excuser nos péchés en disant, bon, c'est normal, nous on est chers. Non, Jésus était 100% homme et il a vaincu le péché, oui.
Ah oui, je vais revenir pour le cas d'Ézéchiel. Quand Dieu a appelé Ézéchiel fils de l'homme, c'est dans la même logique que quand Jésus a dit...
C'est dans la même logique. Il y a même dans Daniel aussi une vision où il voit comme un fils d'homme. Voilà. C'est dans la même logique de la race, quoi. Représentant de ces hommes-là, quoi. Voilà. C'est dans cette logique que Jésus se fait appeler fils de l'homme. Il est le représentant des humains, mais il est aussi, hein, c'est comme si on était, comme je l'expliquais, on en avait affaire aux anges, à Dieu, aux démons. Bon, le représentant de l'homme, c'était Jésus dans tout ce mélange-là. C'est lui qui vient prendre, comme David, la place de tous les autres pour se battre contre Goliath. Voilà. Nous, je ne sais pas si on pourra clôturer, bon, mais il y a quelque chose qu'on devait normalement réserver au Mardi Info, mais quand c'est grave, il faut quand même qu'on en parle. Un pasteur s'est fait reconnaître roi le dimanche passé aux États-Unis. Bien-aimé, la question c'est comment les gens de cette église-là, une église de 25 000 personnes, comment ces gens-là, ils se lèvent, ils applaudissent, ils sont contents. On se pose la question qui est là, c'est qui est l'homme, bien-aimé? Qui est l'homme? Parce qu'une bêtise que les païens ont remarquée, parce que il faut taper bon, parce que c'est en anglais, mais taper en anglais Eddie Long, crowned king. Vous allez voir les journaux américains, que ce soit païens, chrétiens, tous ils en parlent. C'est-à-dire que même les païens sont dépassés, disent, mais quand même, où est-ce qu'ils sont partis trouver encore cette invention? C'est-à-dire que quand les païens commencent à réagir par rapport à ce qui se passe chez nous, donc il faut qu'on se pose la question, mais l'homme, il est comment? Comment on peut manipuler l'homme jusqu'à ce point-là? Ils sont 25 000. Il y a des papas, des grandes femmes, des universitaires. Ils sont là, regardez. Et lui, il essuie les larmes. On ne voit même pas les larmes. Il fait seulement comme... Mais où sont les larmes, bien-aimés? Il fait comme s'il essuyait les larmes pour marquer une certaine humilité. Et on le transporte sur ça. Il est sur la chaise. Quatre personnes le transportent. Ils font le tour. Et il y a les membres de l'église qui se lèvent, qui applaudissent, bien-aimés. Moi, non. Même les païens disent, mais Eddie Long, qu'est-ce qu'il a trouvé encore? En 2010, il a été au tribunal parce qu'il a été accusé de pédophilie. Maintenant, en 2012, tu reviens à roi. Bien-aimés. Cérémonie. On prend une sorte de Torah sous forme de parchemin, on l'entoure. C'est un monsieur qui se prétend rabbin qui le consacre ainsi roi, bien-aimé. C'est pour nous aider à nous poser la question, qui est l'homme? L'homme peut aller loin dans la bêtise. Quand je dis qui est l'homme, pas par rapport à Eddie Long, par rapport aux gens. Aux gens qui sont là, en train de regarder, d'applaudir, 25 000, c'est pour nous dire, bien-aimés, même Dieu lui-même est étonné parfois. Hein. Oh, ces gens-là, vous savez, dans Genèse 6, Dieu était dépassé par la méchanceté des humains. Oh, je vais éliminer tout. Il était dépassé. Donc les hommes peuvent devenir très bêtes. Côté méchant, on le sait avec les Hitler, les Staline, mais bête, c'est vraiment maintenant qu'on le voit clairement. Quoi. Mais non, ça existait depuis longtemps. L'homme lui-même, il coupe un arbre, il fait une statue, il dit que c'est son Dieu. Voilà, ça existait. Bon, mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, à tel point que les païens en parlent. C'est pour nous dire, bien-aimés, la vérité coûte cher. Quand on a la vérité, il faut s'accrocher à la vérité. Parce que quand on ne s'accroche pas à la vérité, on glisse petit à petit. Nous, on trouve que ces gens-là, mais c'est exagéré, mais pourquoi les 25 000 se sont levés pour applaudir? Alors que toute l'humanité à l'extérieur trouve que c'est exagéré. Parce qu'on prend les gens petit à petit, bien-aimés. Petit à petit, on vous prend dans la bêtise. C'est pourquoi quand vous trouvez une petite bêtise, réagissez. Ne vous dites pas, bon, on est des humains, on peut faire des... Non, quand il y a une petite erreur doctrinale, réagissons. Ne laissons pas passer, parce qu'on va laisser passer des plus grands, des plus grosses fautes, des plus grosses gaffes. Et aujourd'hui, bien-aimés, j'attends maintenant les gens qui vont venir nous dire, tiens, vous exagérez dans la vérité. Allez chez Eddie Long. Je vais leur dire, allez chez Eddie Long, il va devenir votre roi là-bas. Parce que Tout ça, ça commence petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis on va vous dire un jour, dans le piment, il y a une puissance spirituelle. Mais c'est petit à petit, ça commence. Un jour, on te dit dans le piment, surtout le piment de la Réunion, de l'île Réunion, il y a une puissance spirituelle. Et tu vas croire. Mais ça commence petit à petit, petit à petit. Il y a une sœur qui m'a appelé en colère. Elle a dit, pasteur, une sœur de Guyane, elle me dit, mais je t'appelle parce que je dois parler avec un pasteur parce que je suis fatigué par les bêtises des chrétiens. Il connaissait un frère qui était drépano. Ce frère-là, on lui a interdit les longs voyages. Et ce frère, à cause de leur mouvement de guérison de ces choses-là, il dit, bon, je vais aller en Colombie et là-bas, je serai guéri. Parce qu'il y a un grand meeting, il y aura des grands hommes de Dieu là-bas. Là-bas, je serai guéri. Or, Jésus a dit, on vous dira, je suis à gauche, n'y allez pas. À droite, n'y allez pas. Là où vous êtes, c'est là où moi je suis. Nous tous nous disons que Dieu est omnipotent. Il est partout. Mais pourquoi aller le chercher en Colombie? Dans un long périple. Il arrive là-bas, il meurt. Parce qu'il est tombé malade en chemin et il meurt. Et quand il allait, comme il marchait avec une béquille, il avait dit, je reviendrai sans béquille. Donc guéri avec sans béquille. Quoi. Maintenant, vous savez maintenant la théorie de cette église-là. Le frère avait dit qu'il reviendrait sans béquille. Il est revenu sans béquille. Donc, comme il est mort, il est revenu sans béquille. Donc, le frère l'avait dit qu'il reviendrait sans béquille. Non, non. Tout le monde, ah oui, donc il avait vu ça, mais non, lui il avait dit qu'il reviendrait en marchant, donc sans béquille. Maintenant, il est mort, on dit qu'il est revenu sans béquille. Et bien aimé, c'est pourquoi je dis souvent, Dieu nous a enlevé certaines choses. Parce que si on avait des puissances du genre un ange, quand tu vois des choses comme ça, tu vas seulement aller étrangler le cou de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas supporter, on voit que ces gens-là s'en sortent, ah il est revenu sans béquille, le frère l'avait dit. Mais ils oublient que quand ils se mariaient, ils avaient dit qu'il allait faire le tour du monde avec sa femme pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. On oublie la prophétie de ce jour-là. On sort encore une autre maintenant, bien-aimé. Non. Et on l'a laissé voyager, sachant qu'il pouvait tomber sérieusement malade. Je crois que c'est les gens qui connaissent l'anémie SS, la drépanocytose. Voilà. Sachant qu'il pouvait en mourir, on l'a laissé voyager juste parce qu'il supposait que là-bas, il allait être guéri. Moi, j'aurais compris, hein, si Dieu te dit, je veux que tu ailles prêcher l'évangile dans telle tribu qui n'a pas encore reçu l'évangile. Bon, malgré ma maladie, puisque Dieu me dit, j'y vais quand même, c'est pour les autres. Et tu meurs pour l'évangile. Mais là, tu meurs d'une manière parce que tu voulais être guéri, toi. Et tu vas chercher Dieu loin et tu meurs là-bas. Mais ces églises-là trouvent toujours un moyen pour faire sortir ça comme étant quelque chose de positif. Il est parti dans la gloire. Qu'ils disent, il est parti dans la gloire. Bien-aimés, nous devons nous réveiller par rapport à la bêtise humaine. La bêtise humaine est devenue grande. Et le moyen de s'en préserver, c'est de s'attacher à la parole. C'est de s'attacher fortement à la parole. Si vous entrez dans la logique commerciale, des dons spirituels, vous finirez toujours mal. Vous entrez dans la logique de succès humain, vous finirez toujours mal. Vous finirez toujours mal. Comment expliquer de telles choses? Et personne à l'église pour dire non, il y a eu une erreur, il y a eu un manque de sagesse. Cet homme ne devait pas voyager. Non, tout le monde dit qu'il est revenu sans béquille. Non, bien-aimé. Et vous vous imaginez le païen qui est au courant de tout ça. Il va dire les chrétiens sont vraiment bêtes. Ils se font avoir. Quoi. Et vous voulez qu'ils se convertissent dans ces conditions-là. Non, personnellement, je suis convaincu que nous vivons un temps de nettoyage. Nous devons vraiment nous mettre à part. Les temps sont difficiles. Les bêtises deviennent de plus en plus graves. Et le pasteur là qui a osé se faire nommer roi, donc il savait que ça allait passer, quoi. Il savait que ça allait passer. Il savait dans quoi il a déjà amené les gens de son église. Nous devons être vigilants, bien-aimés. Vous savez, Paul était très vigilant. Il a dit dans Galates 1, au chapitre 8, il a dit, même si nous-mêmes. Donc, il a lui-même, il s'est lui-même mis en difficulté. Il a dit, si un jour, moi, je viens changer l'évangile, ne me suivez pas. Si quelqu'un d'autre, même un ange vient changer ce qu'on vous a déjà dit, ne l'écoutez pas. Bien-aimé, moi, je vous dis la même chose. Même si moi-même, je viens un jour changer, il ne faut pas suivre. Il faut suivre la Bible. C'est Dieu te jugera en fonction de la Bible. Il ne te jugera pas en fonction des on-dit, en fonction des discussions, des débats humains. Il te jugera en fonction de la Bible, ce qui est écrit dedans. Quand tu as un comportement, que ce comportement soit soutenu par des versets bibliques. Que ce ne soit pas parce que le pasteur a dit, non, que les versets bibliques soutiennent ton comportement, soutiennent tes choix, soutiennent tes réponses que tu donnes aux autres, soutiennent tes décisions, que ce soit les versets bibliques qui soutiennent. Parce que si eux, ils sont 25 000, bien aimé, 25 000 c'est beaucoup. Dans 25 000 il y a tous les âges. Dans 25 000 il y a toutes les catégories professionnelles. Il y a tout ça. Il ne faut pas croire que moi je ne me ferai pas avoir. Beaucoup ont dit qu'ils ne se feraient pas avoir, ils se sont fait avoir. Parce que petit à petit on les a eu, ils ont négligé la Bible. Le seul moyen de ne pas se faire avoir, c'est jamais négliger la Bible. Bâtir tout sur la Bible, bâtir tout selon la parole de Dieu. Quitte à se faire des ennemis, mais tout sur la parole de Dieu. Ce que nous, nous acceptons pas, c'est de nous faire des ennemis à cause de la parole. On doit être prêt à se faire des ennemis parce qu'on a obéi à la parole. Et quand on est prêt comme ça, on sera préservé. Mais dès qu'on commence à faire des arrangements avec la parole, ça finit toujours mal. Donc il faut savoir que dans les 25 000, il y a des gens de toutes catégories, mais ils se sont fait avoir. Ils ont regardé un homme être élevé hein, à la place de Dieu, devant eux, être nommé roi, bien-aimé. Après, on va trouver toutes sortes d'excuses. Oui, mais les chrétiens, oui, sont des princes, sont des rois aussi. Oui, mais non, mais on le sait, mais quitte à faire une cérémonie, lorsqu'on fait une cérémonie, on déclare quelqu'un roi, ça c'est autre chose quand même. Donc, il faut être sérieux, sans compter que cet homme-là, en 2010, il n'a pas encore fini le problème dont il a été accusé en 2010 de pédophilie. Et en 2011, je crois, sa femme a demandé le divorce. Et 2012, on le couronne roi. Vous voyez l'enchaînement? Non, c'est quelque chose qui est très grave. Et nous devons être davantage durs envers nous-mêmes dans le sens de l'attachement à la parole. Dans toutes nos propositions, qu'elles soient, toutes nos positions soient fondées sur la parole. Vous savez, il ne faut jamais se croire plus malin que les autres. Il ne faut jamais. Si on a eu certaines personnes, on peut t'avoir. Alors le meilleur moyen pour qu'on ne puisse pas t'avoir, suis le conseil de Paul. Si nous-mêmes, si quelqu'un d'autre vient changer l'évangile, ne le suis pas, ne le crois pas. C'est ça quoi. Ok, nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous venons prier que tu nous aides à aimer la Bible. Même s'il y a des versets qui, parfois, font du mal à notre chair, qui, parfois, nous amènent à subir l'injustice, ou bien accepter l'injustice, même s'il y a des versets qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait aimé à l'instant avoir, mais que nous acceptions ces versets et que nous avouions notre faiblesse à les accepter, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à aimer la Bible. Aide-nous à nous attacher à la vérité. Aide-nous à nous attacher à la vérité, Seigneur. Quand nous voyons de telles choses arriver dans le monde, on est dépassé, on est dérangé, on est étouffé, Seigneur. Aide-nous à nous comporter selon la vérité, à nous comporter selon la Bible, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi pleinement, Seigneur. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous irons jusqu'au bout. Grâce à toi, nous irons jusqu'au bout, Seigneur. Aide-nous à serrer la Bible dans le cœur, comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur, que nous serrions ta parole dans nos cœurs, et que lorsqu'il y a péché, que nous puissions avoir l'humilité de nous repentir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. afin que la parole soit respectée comme étant vraie. Dans le nom de Jésus, nous te recommandons tous les chrétiens dans les îles, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, les élus, ceux qui sont dans la vérité, mais qui se retrouvent dans la mer de fausseté, dans la forêt de mensonges. Nous prions que ces chrétiens tiennent bon, qu'ils ne soient pas contaminés, qu'ils ne soient pas influencés, qu'ils tiennent bon et que leur groupe grandisse, même s'ils peuvent être 15, 20, oui, comme ça ils sont quand même un certain nombre pour se soutenir, Seigneur. C'est ça que nous prions, c'est ça que nous te demandons en prière, Seigneur, au nom de Jésus. Agis dans ton amour et dans ta fidélité. Ne nous délaisse point, Seigneur. Ne nous abandonne point, Seigneur. Que nous vivions vraiment Apocalypse 3, hein, l'église de Philadelphie, cette église qui paraissait faible, qui paraissait avoir peu de puissance, mais qui avait gardé ta parole. Tu promets à cette église que les gens de la synagogue de Satan viendront s'agenouiller devant cette église. Et nous voulons être des chrétiens d'une telle église, Seigneur. À toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu vas faire, pour nos prières que tu vas exaucer, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.